Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 44 de ce lundi 11 mars. Avec les gars de la presse, Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre.
Bonjour Monsieur Rainville.
Nous avons Monsieur Rainville, c'est gentil. Richard Labbé qui est là, salut Richard.
Salut, je te plairai pas monsieur, salut Jérémy.
Salut Richard. Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là, salut Stéphane.
Salut les gars.
Les gars, aujourd'hui, on va se parler du processus de reconstruction chez les Canadiens. Comme si on n'en parlait jamais.
Encore?
Ouais, on va se parler de ça. On va se parler de John Tortorella également, qui a pété les plombs. Ça va lui coûter 50 000 et deux matchs de suspension. On va se parler de Gary Bettman, qui dit ne pas vouloir ajouter des formations supplémentaires pour les séries de fin de saison. Ça va très, très bien, nous autres. On n'a rien à changer parce que la NBA travaille là-dessus, la possibilité d'amener plus de formations en séries éliminatoires. Et Gary lui dit non, nous autres, c'est correct, je vais avoir votre point de vue là-dessus. Mais, aujourd'hui, Richard, tu étais à l'entraînement du Canadien et ai-je bien compris, Slafkovski n'était pas de l'entraînement?
Oui, ça fait trois de suite.
Qu'est-ce que ça passe?
Ben, ça, c'est une bonne question.
Ouais.
Et puis, j'ai pas de bonne réponse. Mais, on n'a pas vu samedi rien de. Dans le cas de Caulfield, Caulfield a fait ça récemment, raté des entraînements, avait pas l'air à 100% lors des matchs. Dans le cas de Slafkovski, j'ai pas remarqué ça, puis je regardais les matchs aussi, puis j'ai pas vu un événement qui ferait en sorte qu'il serait blessé, peut-être seulement de la maintenance de fin de saison, probablement. Je pense pas que ça va être grave.
Mais dans le dernier match sur la route, avant d'arriver contre Toronto, je trouvais que Slafkovski était un petit peu plus au ralenti. Contre Toronto, pourtant, je l'ai trouvé assez explosif, avec le premier trio, là, avec
Mais
Masuski,
là, oubliez pas,
Caulfield,
il a commencé. Ça fait déjà quelques matchs vraiment que de toute évidence on lui a fait remarquer, garde, t'es gros là, on va frapper du monde.
T'es gros.
Et là ça commence, puis ça c'est normal, donc il doit jouer de même, mais là évidemment qu'en jouant plus comme ça, évidemment, ben plus tu frappes, évidemment plus tu peux te faire mal, et puis ça peut peut-être expliquer la présente situation.
Mais savez-vous quoi, on va aborder des sujets là qu'on a mis ensemble pour le plan du balado, mais je veux juste ajouter quelque chose parce que j'avais une conversation avec Martin McGuire, puis les gars à tour de rôle, je vais vous entendre là-dessus, puis je commence avec Alexandre.
Vas-y.
On avait une conversation ensemble, puis on parlait de Slafkovski, puis à un moment donné, il fait juste me dire, imagine-toi qu'est-ce qu'il va avoir l'air quand il y aura 22, quand il y aura 23. Parce que présentement, écoute, il joue avec beaucoup d'intensité sur la glace. Avec son trio, avec Caulfield, Suzuki, c'est le trio du Canadien. On l'a vu contre Toronto, a trouvé le moyen d'embouteiller les Leafs de Toronto à plusieurs reprises, les trois ensemble.
Il manquait un gars du bord, les Leafs, par contre.
Ah, définitivement. Ouais. Définitivement. Je suis d'accord avec toi. Par contre, on offre quand même une bonne opposition.
Ouais,
là, on offre du jeu de qualité. Comment vous le voyez, Slafkovski, à 22, à 23, à 24, Alexandre?
Ben moi, j'ai toujours dit, et je pense qu'il va être un attaquant de puissance. Là. C'est vraiment le rôle dans lequel on va essayer de le contenir. T'sais, pour le moment aussi, l'autre chose, il joue vraiment beaucoup de parties là, cette année. T'sais. Puis il n'a pas joué tant de matchs que ça dans son passé. Oui, il a fait des transitions entre l'équipe nationale et la Finlande, tout ça. Mais là, il est en train d'apprendre ce que c'est une très longue saison de la Ligue nationale de hockey. Puis c'est pour ça que je pense que son développement risque d'être un petit peu plus long. C'est comme les joueurs qui arrivent des universités américaines. Des fois, on voit que ça s'étire un petit peu le développement. C'est pas comme les joueurs juniors qui jouent 90 matchs par année.
Non, au contraire, c'est ce que je dis.
Okay. Moi, ce que je dis, c'est là, il apprend. Il y a encore beaucoup de place pour la croissance. C'est pas du tout un produit fini. Puis, oui, il y a des problèmes de. Comment je te dirais? Des troubles de croissance, mais pas physique, là, des troubles de tout apprendre, là, ce qui vient avec jouer 82, exactement, de jouer 82 matchs par année, mais je le vois à terme, là, mettons, quand il va être habitué à ce rythme de partie-là, habitué à la Ligue nationale, habitué à la physicalité, je pense que ça va être un des très, très bons power forward de la Ligue nationale.
C'est un gars qui a un potentiel de 30 buts, je pense. C'est un gars qui est capable, particulièrement, éventuellement, on va le mettre dans ce rôle-là en avantage numérique, là, j'en suis convaincu, plus devant le filet. Là, on a Newhook qui fait ça. Mais éventuellement, on pourrait peut-être lui demander de faire ça.
Toi, tu le vois position bumper.
Je le verrais là, ouais. Puis regarde, va-t'en en avant du net. Puis il y a une bonne dégaine. Ouais.
Mais c'est un bon passeur aussi. Ouais. Moi, je ne l'aille pas du tout sur le bord de la bande. Je pense qu'il est meilleur passeur que, mettons, habile devant le filet, personnellement. Ouais, moi aussi, je le vois marquer au-dessus de 30 buts.
Ça s'en vient. Il y a des mains, en anglais, on dirait décevantes. C'est-à-dire que tu penses que il y a plus de talent dans ces mains-là qu'on a l'impression. Puis je pense que c'est en train de, dans 2-3 ans, ça va être intéressant.
Ben, en fait, c'est ce qui était difficile dans sa première année et demie, c'était la demi-seconde de retard par rapport au reste de la ligue. On voit qu'il commence à s'ajuster. Tu sais, avant, souvenez-vous, quand il y avait la rondelle, Il attendait toujours avant de lancer.
Ah, en fait, il voulait pas la rondelle par moment.
Ben, la confiance, c'est,
ouais,
ça.
C'est ça. Mais là, ça commence à gagner. Fait que moi aussi, je le vois au-dessus de 30 buts. Puis ça va être l'attaquant de puissance du Canadien. Là, ça va être le joueur, à mon avis, vedette de l'équipe.
La grosse différence avec d'autres jeunes espoirs du Canadien qui ont malheureusement mal viré ou pas viré pantoute ou rendu en Caroline et joue 8 minutes par match, la grosse différence avec ces gars-là, c'est que lui a vraiment... je te dirais, l'attitude du gars qui veut apprendre et qui veut s'améliorer.
OK, ça fait une grande différence. Stéphane, comment tu le vois, Slavkovski, à 22, 23, 24 ans?
Ben, je le vois comme... écoute, tout a été dit déjà, hein, depuis 5 minutes.
On va passer à autre chose. Est-ce qu'il peut garder les buts, Stéphane?
Non, je pense pas. Pas la première fois que je le compare un petit peu au John Leclerc, pas celui du Canadien, mais celui des Flyers.
Ah,
ouais.
C'est un bon comparatif.
Ouais. Ah, ça, c'est 50
puis,
buts, ça.
Ben, écoute, oui, mais dans ce temps-là, les 50 buts, t'es beaucoup plus facile à voir que les 50 buts aujourd'hui.
Et avec un centre comme Lindros, quand même,
ça allait bien.
Exactement. Mais écoute, Slavkovski va. C'est pas juste le fait de dire, ah, il va scorer 30 buts ou 40 buts. C'est pas juste ça. C'est qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter de la place aux deux autres, à Suzuki, à Caulfield. Il va aller chercher les rondelles dans les zones plus à risque, dans des zones où, sur le bord des bandes, ce que peut-être, c'est peut-être pas la force des deux autres. Donc, il va apporter pas mal plus que des buts. Et écoute, à 19 ans déjà, sa force qui démontre à 19 ans, c'est déjà impressionnant. Puis moi, j'avais été impressionné il y a 2 ans, l'année avant qu'on le repêche, quelques mois avant qu'on le repêche, quand il jouait avec des hommes puis qu'il n'avait pas l'air fou pantoute. Là. Mais imagine ce corps-là, mature, à 22, 23 ans. Wow, moi, je suis d'accord avec vous autres, ça va faire un des bons... power forward de la Ligue nationale.
Surpris par sa qualité, sa touche offensive, qualité de passer la rondelle rapidement. Ouais. Écoute, il y a une belle synergie qui s'est développée avec Caulfield et Suzuki. Bon, écoute, ça, c'est une parenthèse. Stéphane, je vais rester avec toi. Tu seras le premier à répondre à la prochaine question. Fin du ménage à 3. Ben oui, c'est terminé. On n'en parlera plus. C'est terminé. Mais c'est le début du ménage à 2 maintenant. Est-ce que les garçons sont prêts? Et là, je m'explique quand je dis les garçons. C'est que lorsque Jake Allen a quitté dans son point de presse et quand Kent Hughes a parlé dans son point de presse, on a parlé de l'importance du vétéran qui était Jake Allen avec les deux gardiens de but, tu sais, parce que personne n'aimait ça. Allen communiquait souvent avec Montembeau, communiquait avec Primo, parlait, tout le monde échangeait ensemble. Là, le grand frère ou le papa n'est plus là. Est-ce que les deux sont prêts quand ils auront du trouble? Il ne reste pas beaucoup de matchs, 18, mais quand ils auront du trouble, est-ce que les deux sont prêts à être les gardiens de but du Canadien, Stéphane?
Ben, moi, je suis convaincu que oui. Et puis, écoute, à un moment donné, pour falloir arrêter de dire qu'ils sont jeunes. À 27 ans, Montembeau, là, il est rendu dans le milieu de sa carrière, même peut-être plus. Et puis, 7e année pro. Tu sais, fait que des fois, ça me faisait rire en disant, ah, Jake, il est bon parce qu'ils sont jeunes. Maintenant, ils seront plus jeunes qu'ils vont être jeunes jusqu'à quel âge? Jusqu'à 40 ans?
Jusqu'à 50.
C'est ça.
Kanemi va être jeune jusqu'à 40 ans.
Oui, exact.
Ouais, mais c'est
il sera
ça.
Il sera plus dans la Ligue nationale.
Mais tout ça pour dire, tu sais, que Samuel fait 7e année pro. Je pense qu'on était souvent plus poli que d'autres choses en disant, en vantant l'importance du vétéran à l'entour qui calmait toutes les choses. Oui, c'était vrai, mais à un moment donné, c'est comme je te dis, à 27 ans, là, j'espère que les gars n'ont plus besoin d'un gars en entour d'eux autres pour dire, hey, calme-toi, fais-toi-en pas avec ça, et puis si telle affaire, puis tu sais, à un moment donné. Ça a même affaire avec Caden. Caden, c'est quand même sa 5e année pro, 24 ans. Donc, non, moi, écoute, ils sont dus pour voler de leurs propres ailes, si on pourrait dire, et puis ils sont prêts. Et puis même, je te dirais même que c'était une année qui lui fait mal quand même, parce que Montembeau a seulement 30 départs en 64 matchs. Numéro 1 devrait avoir au moins 42 départs à cette date-ci. Et un Primo, lui aussi, ça lui a fait mal la présence d'Allen, parce qu'Allen a quand même volé 21 départs, volé entre guillemets, aux deux autres. Et puis Caden aurait dû au moins avoir une vingtaine de départs jusqu'à date.
Le Canadien était très chanceux dans ce scénario-là, parce que s'il avait fallu que juste un des trois soit un peu plus mal commode, puis décide de ne pas être content, puis de babouner, puis de faire clairement connaître son mécontentement. Ça aurait pu vraiment être beau. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Les trois ont été... J'ai senti que Kaden Primo est impatient.
Publiquement, ils ont été corrects.
Ouais, mais Kaden Primo, une fois, je me souviens, j'étais en adversaire sur la route avec lui là, il y a 4-5 semaines. Et à mots couverts un petit peu, on sentait son impatience. Ouais. Mais tu sais, il allait pas vraiment dire, regarde, ça n'a pas de bon sens, puis changez-moi si vous n'êtes pas content. Il allait pas faire ça. Mais on sentait son impatience. C'est lui, je pense, qui a été le grand perdant là-dedans. Sauf que là, maintenant, oui, c'est lui le grand gagne. Parce que il reste 18 matchs, il en reste pas beaucoup. Sauf qu'il va avoir l'occasion déjà de poursuivre son audition pratiquement pour le poste de numéro 2, parce qu'il y en a quand même un à Laval qui est en train de pousser tranquillement. Il va avoir une batteur, je pense, en septembre. Alors Primo doit se servir des matchs qui s'en viennent pour tenter de gagner son audition puis de cimenter sa place comme numéro 2, ce qui est loin d'être acquis.
S'il y a une bataille en septembre, ça va être un autre ménage à trois, par contre, parce que Primo a retourné à Laval.
Ben, ouais, je pense pas qu'on va se rembarquer là-dedans.
Arrêter, toi, avec l'histoire de ménage à trois?
Non, il y en aura pas. Ça fait, ils vont être 1 et 2 l'année prochaine, ça me semble assez clair déjà.
Ouais, c'est clair. Surtout Daubus n'a pas besoin de... Daubus n'aura pas besoin l'année prochaine de passer au balotage encore une fois. Donc, et puis, écoute, il y a tout à gagner, à refaire une autre année dans la Ligue américaine, minimum, tout à gagner. Donc, je pense pas que on va avoir ce dilemme-là au camp d'entraînement. Et puis, tu as raison, Richard, le Canadien était chanceux de compter sur trois bons gars pour embarquer dans cette fameux trio.
Stéphane, je sais pas si t'as connu Jeff Hackett là, qui avait joué ici.
Il était pas commode.
Peux-tu dire que c'est un ménage à trois avec Jeff Hackett, là, ça, ouais, il y a quelqu'un qui serait décédé.
Juste à deux avec Théo, c'était vraiment compliqué.
Ouais, à deux, c'était un peu compliqué, exactement. T'as tellement raison. Et puis, non, il y a bien des gardiens de but que le ménage à trois, là, il n'ira pas toffé jusqu'au 8 mars.
Ben, Jake Allen, dans son point de presse du côté du New Jersey, après son premier entraînement, je pense, a dit, tu sais, c'est un choix de l'organisation d'être comme ça. Je pense pas que c'était notre choix. Il y a pas grand monde qui a raison. Mais tu sais, encore là, il était politiquement correct. Ouais. Mais tu sens que s'il y avait un mécontentement là-dedans, là. Puis, ça a quand même ralenti le processus. Stéphane a parlé, ça ralentit le processus. Et d'autant plus, c'est des victoires de moins peut-être que tu aurais pu avoir. Si tu mets Montembeau dans le filet, peut-être que le Canadien va chercher 4-5 victoires de plus.
Peut-être que t'es dans la course. Là.
Non, mais t'es plus proche. T'as des matchs qui veulent dire quelque chose. T'es pas à 8, t'es pas à 10 points.
On va en parler, là, mais les matchs d'un point, d'un but cette année, là, il y en a eu 37. Là. Écoute, fais juste, rajoute une couple de meilleures performances, peut-être devant Philippe, t'en gagnes combien là-dedans?
On est-tu en train d'être positif, nous autres?
Ben,
réaliste.
OK, réaliste. Ben, les gars, écoutez, parlons-en justement. Ce que tu parlais, Richard, c'est que, et t'as écrit un papier là-dessus, c'est 37 matchs qui ont été soit gagnés ou perdus par la marge d'un seul but. Comment voir ça? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif, ça?
Vers à moitié plein, c'est positif parce que t'apprends, vers à moitié vide, c'est négatif parce que tu gagnes pas.
Alors,
c'est...
on a compris le principe.
C'est pas mal, on a compris. C'est pas mal.
Mais ça va ton point de vue.
Moi, je pense que le Canadien, à un moment donné, OK, ça va faire les victoires morales, puis on est proche, puis on est capable de compétir. La prochaine étape, c'est de gagner ces matchs-là. La prochaine étape, c'est d'apprendre à gagner. La prochaine étape, c'est d'apprendre à conserver une avance. Récemment, contre Tampa, à Tampa, le 2-0 samedi soir, faut que tu sortes de là avec les deux points. Oui, ah, c'est beau, on est allé chercher un point en sortant. OK, bravo. Mais il faut que tu apprennes à porter le coup de grâce. Le Canadien ne fait pas ça cette année, ou rarement. Quand tu as l'adversaire dans les câbles, là, tu mets 2-0, va chercher le troisième. Sors-les du match. On n'en est pas là. Et je pense que si le Canadien est pour passer à l'autre étape, éventuellement, il faudra le faire. Eh bien, faut apprendre à porter ce coup de grâce-là. Quand que l'adversaire est dans les corps, faut que tu l'achèves. Présentement, on fait pas ça.
Alexandre?
Mais tu sais.
Attends, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Faut que tu te prononces au début.
C'est positif.
Okay.
C'est positif parce que il resserre quand même un petit peu l'écart avec le reste de la ligue pour ces parties-là. Cela dit, il y a plein d'autres matchs qui se terminent malheureusement avec des gros écarts. Ça, c'est un petit peu moins positif. C'est positif parce que ça peut laisser entrevoir aux plus jeunes de l'organisation. On n'est pas si loin que ça. C'est des clubs qui sont en série. On est capable d'aller les chercher, mais comme le dit Richard, c'est le but qui manque tout le temps, puis c'est difficile de garder une avance pour le Canadien. Puis l'autre chose, c'est quand le Canadien donne l'avance à l'autre équipe, là, il y a vraiment un manque de confiance. On va capable de faire des rallyes. Tu sais,
c'est Mike Matheson à Boston qui avait dit ça le samedi soir là, en janvier, où ils se sont fait remonter puis ils sont fait planter solide.
9-4,
Mike Matheson parlait de nervosité. Et il disait, quand on se retrouve dans certaines situations de jeu, on est nerveux. Et ça, tu sais, est-ce que c'est juste une question d'apprentissage? Mmh, est-ce que...
C'est ça, l'affaire, c'est que c'est pas si pire. Quand c'est égalité, c'est pas si pire. Tu sais, comme, en prolongation, le Canadien est 10 victoires, 10 défaites. C'est quand même pas pire. C'est une meilleure fiche que les Bruins, par exemple, de Boston. Ils sont très bons. Le problème, c'est quand ils tirent de l'arrière par un, ils ont de la misère à aller chercher, puis quand ils mènent de un,
ils gardent pas l'avance.
Ils gardent pas l'avance.
Ben, c'est ça. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux parce que moi aussi, ils me rendent nerveux quand ils.
Sans doute qu'ils rendent Martin Saint-Louis nerveux aussi.
Exact, sûrement, parce qu'ils savent pas comment défendre dans ces situations-là. Quand on met de la pression sur eux, on a de la misère à défendre. Et ça, écoute, ça va venir avec le temps. On dit tout le temps que ça s'apprend à gagner. On apprend à gagner, puis on est rendu là. Mais, je pense que c'est positif quand même. Ça veut dire que tu étais dans la plupart des matchs, on était là. Je regarde des matchs de Chicago, de San Jose. Ouais. Oh my God! Ils m'ont l'air tellement loin du Canadien, déjà. Le Canadien est tellement en avance sur ces équipes-là. Donc, pour moi, c'est positif du fait qu'ils sont dans le coup pratiquement à tous les matchs. Même dernièrement, la dernière semaine, écoute, ils l'ont prouvé là, dans le voyage, où ils ont été dans les matchs, à tous les matchs, samedi soir contre Toronto.
Ouais.
Écoute, ils ont été dans le match, ils ont pas à être gênés de cette prestation-là contre supposément une des bonnes équipes de la Ligue. Donc, pour moi, c'est positif.
OK, moi, je trouve ça positif. Mais il y a quelque chose que je trouvais épeurant, puis je vous explique. Dans le match, entre autres, contre les Hurricanes de la Caroline, on prend les devants 1-0, et il y a une portion de temps, un 3 minutes, 3-4 minutes en première période. Écoute, on était capable de faire un changement de territoire offensif. On a complètement dominé les Hurricanes de la Caroline. Sauf que on n'a pas marqué de but. Mm-hmm. On s'est pas c'est servi ça. De cette situation-là pour marquer un but, prendre les devants 2-0 dans le match. Ce qui est arrivé, c'est que les Hurricanes ont marqué, on s'est fait refuser un but, les Hurricanes marquent un troisième but et on marque dans un filet désert, c'est 4-1. Je pense que le match a fini 4-1. Ouais. Je veux pas induire personne en erreur. Mais c'est dans ces moments-là, où en fin de match, je trouve que là, on n'a pas cette qualité-là de mettre un but quand c'est le temps pour briser les reins de l'adversaire.
Exactement. Puis c'est, pour moi, la prochaine étape, c'est ça. T'sais, là, on reprend un peu ce que Martin Saint-Louis a dit. Martin Saint-Louis dit, regarde, on compétit. L'année passée, on se faisait planter contre ces clubs-là. Maintenant, on est là. Mais là, on passe proche. Puis c'est bon dans quoi passer proche? C'est bon au fer.
Quand tu joues au fer, c'est très, très bon, mais ça a la seule place. OK, hey, les gars, je vous place dans la peau de Martin Saint-Louis. Vous êtes le coach du Canadien. Vous avez 18 matchs à faire. C'est ça qui reste au Canadien de Montréal. 18 matchs à faire. Pour éviter que tout le monde s'endorme sur chaque match, vous vous dites, bon, moi, il faudrait que je crée un peu de compétition à l'interne. Faut que je rende ça intéressant. Faut que mes boss soient en mesure de voir qu'est-ce que ces joueurs-là ont dans les entrailles, puis qui est bon, qui est capable de faire la job. On fait quoi pour créer de la compétition, Alexandre?
En fait, c'est souhaitable, mais ça va être très difficile pour deux raisons. La première, c'est le Canadien souhaite que le Rocket participe aux séries. T'sais. Donc, il amènera pas des joueurs du Rocket qui viendraient causer de la compétition à l'interne. Les joueurs, ils vont rester en bas. Puis ça se peut même que Joshua Roy aille jouer en bas. Ça se peut que Strawball, à un moment donné, descende en bas. T'sais. Donc, t'enlèves des options de possibilité de faire de la compétition à l'interne en amenant un joueur de 20-21. Tu sais, un joueur comme Henneman, mettons, qui voudrait peut-être aspirer à être dans l'alignement l'année prochaine. Mais tu l'amèneras pas, tu vas le laisser à Laval. Fait que ça va être plutôt difficile. Le deuxièmement, c'est... Il n'y a pas tant d'options de compétition à l'interne dans le club en haut non plus. Il y en a en défense. T'sais. Ça, clairement, il y a au moins un poste l'année prochaine qui est encore en jeu. Mais en attaque, c'est pas vrai. Anderson, ils ne rachèteront pas son contrat. Gallagher, ils ne rachèteront pas son contrat. T'sais, les postes sont presque figés. En tout cas, il y a au moins 10, 11 postes d'attaquants qui sont déjà figés là, pour la saison prochaine. Donc, ces gars-là, ils savent qu'ils vont être à l'alignement la saison prochaine. Fait que, moi, je pense à partir d'ici, tu joues surtout pour ne pas te blesser. Puis tu vas être en santé au camp notamment l'année prochaine pour voir sur quel trio tu vas jouer. Mais t'sais, soyons francs, le premier trio du Canadien, il est pas mal déjà coulé dans le béton pour la saison prochaine. On a une bonne idée qui va jouer sur la 2 puis la 3, puis on sait que les autres joueurs ne seront pas échangés parce qu'on a des contrats albatros. Fait est-ce que c'est souhaitable? Totalement. Est-ce que ça va arriver? Peu.
C'est presque impossible maintenant de faire ça à cause que tu as tellement de règles qui t'empêchent de faire ça. Moi aussi, j'aimerais voir un peu plus de compétition. Si Ryan Backer finit par arriver ici, je pense pas qu'on le voit ici. Il va aller probablement avec le Rocket. Donc, Mayu, j'aimerais ça le voir. Ça fait longtemps que je me dis que ça serait le fun de le voir, mais là, peux-tu prendre le risque de... On me dit que c'est le meilleur joueur là-bas. Peux-tu l'enlever du Rocket, l'amener ici?
Ben, c'est ça. Que tu fais?
Alors, c'est ça le problème. Ça serait le fun, mais dans la réalité...
Ça va créer un petit quelque chose si Lane Hudson arrive, termine sa saison.
Ça dépend quand il arrive. S'il arrive et qu'il reste deux matchs à la saison ou trois matchs à la saison.
Moi, tu le fais jouer, tu le vois un peu.
Ça serait comme Peeling, mettons.
Ou Sean Farrell quand il est arrivé l'année passée.
C'est ça, exactement.
OK, bon.
Sean Farrell, by the way, on l'a même pas vu de l'année non plus. C'en est un.
Pas proche, là.
Non, c'est ça. C'en est un qu'on aurait aimé voir à un moment donné. Il a été blessé et tout, mais c'en est un qu'on aurait aimé voir dans la saison.
Bon, Stéphane, tu vas m'aider parce que là, j'ai deux noms créatifs devant moi. Je les avais mis dans le rôle du coach, puis ils ont parlé comme un directeur général. Moi, Steph, je vais avoir ton point de vue. Moi, j'ai réfléchi à quelque chose, puis tu me diras, je suis complètement dans le champ gauche. Est-ce que ça se fait, avec 18 matchs à faire dans la Ligue nationale de hockey, pour un coach, je regarde, notre saison est terminée. Honnêtement, on fera pas les séries, sauf que on va se faire des séries entre nous autres. On va se faire, tu sais, on affronte quand même Boston, on affronte Tampa Bay, t'affrontes des gros clubs. Y a des clubs qui vont être des séries de fin de saison. On peut-tu se faire des séries 3-5? On peut-tu se faire des séries 4-7? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, ça?
Ça, je l'ai vu souvent.
Ça marche-tu?
Ça marche la première série, puis après ça, maintenant, les gars sont comme tannés, là, de coq. C'est beau, là.
Les gars font leur plan de vacances.
On a perdu notre première série, là.
On est éliminé.
C'est que, non, ça marche à court terme. Et ça prend beaucoup, c'est beaucoup d'ouvrage pour les coachs dans cette situation-là. Moi, je l'ai vécu deux fois, ça. Une fois à Montréal, l'année où Carey s'était blessé au début décembre, ou après les fêtes, on était pratiquement éliminé. Et je l'ai vécu à mes premières années à Chicago. Donc, c'est très difficile pour les entraîneurs. Le plus gros défi pour les entraîneurs, c'est de maintenir l'attention, le focus des joueurs, l'engagement des joueurs jusqu'à la fin de la saison. Parce que, moi, vous le dire, là, puis c'est la nature humaine, là, les joueurs, là, à partir de vendredi, de la date limite des transactions, quand que on sait tout où on va finir, puis on sait tout qui finit la saison que nous autres. Là, c'est le décompte qui se fait dans ta tête. Là. Bon, ben là, OK, il en reste 18. Après ça, là, il en reste 17. Ah, après ça, bon, 16. Bon, 15. Puis ça, là, ils se font le décompte après chaque match, enfin une de moins. Puis même les entraîneurs, faut pas se cacher, nous autres, tout, là, on a hâte que ça finisse. Une de moins. Mais t'es quand même payé, il reste quand même un petit peu moins qu'un quart de saison. C'est beaucoup de hockey. Donc, il faut que tu trouves la façon que ces joueurs-là jouent de la bonne façon. Pourquoi? Tu veux encore une fois développer ta fameuse culture, même si tu sais que tu t'en vas nowhere. C'est le plus gros défi des entraîneurs. Et c'est à chaque jour de pas être complaisant. Il faut que les entraîneurs regardent, faut pas être complaisant. Dans les pratiques, on pousse-tu jusqu'au bout? Oui. Pas donner des jours de congé, hein, pour dire, on s'en va pas dans les playoffs. C'est pas la fin du monde si on a un day off aujourd'hui. Non. T'es ça à de l'as. Parce que t'es payé pour, puis on est ici pour s'améliorer à tous les jours. Donc, c'est à partir des entraîneurs de pas être complaisant. Il faut que ça déteigne sur les joueurs jusqu'à la dernière minute. Donc, non, c'est pas facile. Pour les entraîneurs, c'est un travail très difficile.
Est-ce que Saint-Louis est capable de faire ça?
Je te dirais, l'année passée, peut-être pas. Les deux premières années, cette année, on dirait qu'il apprend avec un coach. Il apprend à coacher. Il apprend à être un petit peu plus tough, plus incisif. Plus. J'espère, parce qu'il n'y a pas le choix. Sinon, c'est la déroute.
Écoute, c'est pas rassurant s'il est pas capable. Ça va être trop longtemps.
Non, mais honnêtement, je pense quand même, si t'es un coach, je vais être bien franc dans ces circonstances-là. Tu sais, à un moment donné, faut que la motivation elle soit intrinsèque. C'est-à-dire, faut que le joueur trouve lui-même la motivation là-dedans. Parce
c'est dans la ligne nationale. Là,
c'est ça. Tu sais, t'as beau avoir le meilleur.
Pro,
non, mais t'as le meilleur coach au monde. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à jouer à. Comment s'appelait Monsieur Chapu, là, qui était le positif.
Jean-Max Chapu, sacrifice.
C'est ça, tu sais. Non, mais il y a des limites à un moment donné.
Mais c'est
à
une réalité.
GO, là,
c'est une réalité, par contre, puis c'est tough. Ça. Parce que moi, je me souviens.
Ça va être très difficile.
On avait parlé du cas de l'Avalanche. Ça avait fait jaser il y a quelques années, avant que l'équipe s'améliore, que les gars faisaient leur plan de vacances. En avant les médias, on était dans le vestiaire, puis les gars jasaient, ah, m'en va à Punta Cana, moi, puis moi, je m'en vais là. Tu sais, les gars dans leur tête avaient déjà décroché, étaient déjà partis. Ben, pour le coach, là, de maintenir ce niveau, le niveau tough, d'engagement, c'est pas facile, c'est la nature humaine, comme Stéphane l'a dit. Tu commences à penser quand est-ce que tes vacances arrivent, puis aussi l'autre affaire, tu sais, on va se dire, là. Ils le diront pas, là, mais tu sais, les Anderson, les Gallagher, les qui ont du millage, là, penses-tu que ça leur tente d'aller se faire frapper là, pour une game, ils veulent rien dire, puis peut-être se faire mal, puis passer l'été en béquille, penses-tu que ça leur tente?
Il y a tout le temps les classiques, là, les coachs vont tout le temps dire, là, les fameux classiques, hey, vous êtes des pros, soyez des pros jusqu'à dernier match, dernier entraînement, ou les fans qui payent l'étiquette, eux qui, que ce soit match numéro 1 ou match numéro 41 au Centre Bell, ils ont payé le même prix. Il y a tout le temps ces fameux classiques-là, à un moment donné, les joueurs.
D'ailleurs, il y a d'ailleurs des matchs premium, je sais pas. Là, est-ce qu'il faut tu voir des matchs bronze maintenant? Tu vas pouvoir acheter le billet les au matchs, tiers du prix.
Les matchs tôle.
Mais moi, j'avais déjà parlé à Denis Gauthier puis Bruno Gervais de ça, parce que quand le Canadien, il perdait tout le temps, à un moment donné, tu cherches des sujets, là, parce que c'est
comme maintenant,
la défaite, genre, mettons. Puis là, le Canadien venait d'en perdre 8 de suite, puis eux, ils avaient joué pour les Flyers puis les Islanders dans les pires années, là, genre, qui étaient comme avant-dernier ou dernier du classement. Puis les deux m'avaient dit la même chose. Ils disent, tu sais, arrive un moment dans la saison, les vétérans, ils veulent juste pas se blesser. Là, c'est tout. Ils disent, à un moment donné, tu te poses la question, mais pourquoi je vais à l'entraînement? T'sais, ça sert à quoi qu'on s'entraîne même à matin? T'sais, ou les morning skate, par exemple. C'est juste, tu essaies de faire du sens de tout ça. Tu dis, écoute, moi, si on les gagne tous d'ici la fin de l'année, ça ne changera rien. Pourquoi je le ferais? Ça existe. Okay. Ça existe.
Sauf ceux qui sont en année de contrat.
Oui, mais il y en a peu.
Ouais. Mais c'est ça. Mais pourquoi? Ça changera quoi? Mais qu'est-ce qui change? C'est de tomber dans la fameuse complaisance. C'est ça qui. Puis c'est dur, même pour les entraîneurs, de dire, bon, mais je veux pas écœurer mes joueurs, mais en même temps. Faut que tu fasses la job jusqu'à la fin.
Martin Saint-Louis tente de le faire encore. L'entraînement de lundi, d'ailleurs, sort son petit crayon feutre, met ses lignes à terre.
Mais il faut.
Ah oui, encore. Oh, oui.
Non, mais il faut, sinon tu tombes dans le cynisme et tu perds ta chance.
Là, je comprends. Nous, ici, là, on fait bon. Ça fait 2 années de suite que le Canadien ne fait pas les séries. On fait une troisième année.
Plus que ça.
Troisième année de suite que le Canadien ne fait pas les séries. Ah, les gars, il reste juste 8 matchs. La seule chose, c'est qu'il y a le directeur général qui, lui, a 2 choix de première ronde cette année, 2 choix de première ronde l'année prochaine. C'est quoi, 23 choix au total. On l'a vu, c'est un gars qui est capable d'être extrêmement dynamique lors du repêchage. Fait que donc, ça se peut que dans le vestiaire, on se la coule douce, mais il y a un gars en haut qui doit commencer à sentir un peu la pression du public, la pression de son organisation, pour amener cette équipe-là ailleurs et ce rapidement. Est-ce que Kent Hughes doit échanger ses choix repêchage lors du prochain repêchage pour accélérer la reconstruction? On fait une pause, on en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, saison 5, épisode 44, avec Alexandre Pratt, Richard Labbé et Stéphane White. Bon, les gars, là, on avait l'impression d'être dans un vestiaire de club éliminé. C'était relax. Prends-tu une petite frette à pioche? Ben oui, puis on part. Bon,
ils font plus ça, ils font plus ça.
Ben non, c'est pas grave, il y aura juste 18. Attendez une minute, Moumoute. Il y a un directeur général qui s'appelle Kent Hughes, qui a beaucoup de choix repêchage et qui, dans son point de presse, lors de la date limite des transactions, dit « C'est parce que moi aussi, j'aimerais ça, à date limite, être capable de faire des transactions qui veulent dire quelque chose. Moi aussi, j'aimerais ça jouer des matchs importants. Est-ce qu'on va accélérer le processus? Pas tant, mais clairement, c'est notre intention aussi d'être là. » Fait que je pense qu'en quelque part, ça commence, il y a une graine qui s'est implantée dans l'organisation pour dire « C'est le fun. » Mais il faut que ça arrive en quelque part un moment donné. Les gars, lors du prochain repêchage, est-ce que Kent Hughes doit peser sur l'accélérateur? 1, 2, choix de première ronde, on bouge, on amène quelque chose de nouveau, Alexandre?
D'abord, je pense qu'ils ne changeront pas leur premier choix à eux, qui risque d'être 5e ou 6e au total, parce que le Canadien, à un moment donné, a besoin d'un talent élite en attaque, puis je pense franchement pas qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey va donner un joueur élite en attaque pour un 5e ou 6e show au total. Je pense pas que ça va arriver.
C'est là que ça nous prendrait Stéphane Leroux avec nous autres qui nous dirait il n'y en a pas tant que ça dans le top 5 ou dans le top 10.
Ce qu'on entend présentement, c'est qu'il y a un top 5, peut-être 6, puis après, ça diminue vite. Okay. C'est ce qu'on entend présentement. Bon, l'autre choix, clairement, il est échangeable. Il va être loin au repêchage. Ça va être celui des Jets. T'sais. Donc, ce choix-là, c'est les Jets.
C'est Monahan, ça, c'est ça?
Non, c'est les Monahan.
Non, excuse.
C'est pas celui de Toffoli.
Ouais, c'est Toffoli, je pense. Ouais. Mm-hmm. Attends, c'est les. Attends. Sur les Flames.
Mais bref, donc deux choix de première.
Le deuxième choix, il va être. Non, c'est le choix des Jets. Le choix des Flames, c'est celui de l'année prochaine qui est un peu compliqué là, avec les Panthers.
C'est celui des Jets. Ouais.
Donc, c'est parce que les deux impliquent Monahan, en fait.
Exact.
C'est un petit peu compliqué. Alors, ce choix-là, il va être tardif. Donc, c'est pas un joueur de premier plan, de toute façon, que le Canadien obtiendrait. Les deux dernières années, le Canadien a quand même obtenu un deuxième choix, puis l'a échangé. Oui, vas-y.
Celui des Jets.
C'est ça, exactement.
Donc 2024, c'est Canadien ça. Jets, et 2025, c'est Canadien Calgary.
Ou Panthers, ouais, en tout cas, selon plein et de scénarios. Là. C'est un peu compliqué comme scénario. Mais tout ça pour dire, donc, les deux dernières saisons, les deux derniers repêchages, le Canadien a acquis un autre choix de premier tour, et l'a échangé. La première fois, c'était pour aller chercher Doc. Ils avaient donné Romanov, ils ont obtenu un choix de premier tour. En fait, l'année dernière, ils sont allés chercher Newhook avec un deuxième choix. Ça, c'est absolument réaliste. Et même, je pense que le Canadien aurait tout avantage à jumeler son choix avec un défenseur
pour aller chercher
un attaquant. C'est vraiment la transaction qui ferait absolument du bon sens. C'est sûr que chez le Canadien, ils pensent. C'est impossible qu'il n'y ait pas ce scénario-là sur la table présentement. Ouais, parce que là, ça te permettrait, si tu le fais, d'ajouter deux attaquants, mettons, pas pire quand même là, pour ton alignement qui en a comme cruellement de besoin sur le long terme, je pense que c'est la stratégie qui va être usée.
Les rumeurs qui ont circulé, d'ailleurs, dans les dernières semaines, c'était que parfois, on demandait à Kent Hughes s'il était prêt à laisser aller un espoir parmi les défenseurs.
Ben, alors, non, mais il faut.
C'est ça qui va arriver. Là. Ben, c'est
pas quelque sûr, part, l'année prochaine, faut il va y avoir place, trop... Ben, c'est ça. Quelque part, l'année prochaine, il y a trop de défenseurs qui vont devoir passer par le ballottage. Puis, ils risquent de les perdre. Je veux dire, il va falloir qu'ils fassent un geste à un moment donné. Puis l'autre chose, ces gars-là, même sur le long terme, il y a quand même bien juste 6 joueurs qui jouent à défense dans une partie. Il va falloir qu'ils se débarrassent. Ben, pas qu'ils se débarrassent, mais il va falloir qu'ils aillent créer de la valeur à d'autres positions en attaque, ce qui est vraiment une faiblesse du Canadien.
Mais l'histoire dans tout ça, puis Stéphane, là, je veux t'entendre, ramène-nous sur la bonne track. Est-ce qu'on pèse sur l'accélérateur? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on pèse sur la suce?
Ben, on peut accélérer, mais pas trop vite. parce que...
OK, c'est quoi trop vite?
Ben, d'y aller, dire, OK, là on faut faire les séries absolument, puis on va y aller avec des gros noms, puis des gros échanges, puis non, mais s'assurer de commencer à avoir, comme le genre d'échange de Newhook qu'on a fait, puis Dak, c'est des échanges qui sont pour le présent, mais surtout en même temps pour le futur. Donc, là, je veux dire, c'est que le futur n'est pas l'année prochaine. Le futur est quand même dans quelques années. Si on continue la progression tranquillement, c'est comme
dans partir... quelques années, ça nous ramène à quoi? 2029, 2030, ça? Ça nous ramène à quoi?
À peu près, parce que dans quelques années, on va avoir une nouvelle direction qui va revenir avec un autre plan de 5 ans.
Et puis sur ce point-là, d'ailleurs, parce que vendredi, quand les Sharks ont échangé Hurtle, je regardais les commentaires sous la publication des Sharks qui annoncent le départ.
C'était terrible.
C'était affreux. Là. Les gens disent, moi, je reviens plus jamais là. Vous m'avez perdu. Ouais. Bon, on verra si ça va arriver. Mais je regardais au moment où on se parle, le classement des assistances, ils sont 30e, les Sharks, sur 32. Ils ont 13 000 personnes par match. Le Canadien est premier. Pendant combien de temps le Canadien peut faire ça? Puis soyez patient. Je sais que le marché ici est conquis d'avance. C'est pas San Jose. Mais.
Écoute,
je sais qu'il y a 21 000 personnes. Là,
combien de temps?
Il y a quelques semaines. On perdait 4-1 dans un match, mais on faisait la vague dans le Centre Bell. Mm-hmm. Fait que là, le monde n'est pas sur le point de dire, ben non, moi, c'est fini, là. C'est
vraiment un privilège.
Non, mais en fait, c'est
incroyable.
On a fait un balado là-dessus l'autre jour, mais c'est un luxe.
C'est un luxe
de pouvoir faire une reconstruction. Mm. Ottawa, là, à la fin, là, ils ont eu une saison avec 10 000 de moyenne d'assistance. Là.
Ouais.
Buffalo aussi, là. Ouais. Tu peux pas te permettre ça. Partout, regardez les expos à Montréal. On est quand même un cas qui était dans notre cours. Là. Quand ils se sont mis à vider le club, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ils ont arrêté d'y aller. Mm-hmm. Les Alouettes, dans les années de merde, là, c'était.
Il y avait
moins de monde. L'impact, c'était la même chose. Là, le Canadien, ils ont une clientèle qui lui est fidèle. C'est super. Mais je vais être très franc, je pense que cette clientèle-là, elle est divisée en deux. T'as les gens sur les réseaux sociaux qui vont peu souvent ou qui achètent peu de billets. Et qui, eux, sont comme, il n'y a pas de problème. Surtout les jeunes, tu sais, qui sont comme, il n'y a pas de problème, on est prêt à attendre. Nous, de toute façon, on n'a jamais vraiment connu le Canadien gagnant, sauf la finale de 2021. Enfin, ça peut prendre 3-4 ans, mais chez les acheteurs de billets, qui sont...
Plus vieux.
Oui, et beaucoup, il y en a beaucoup qui sont des lecteurs de la presse. C'est quand même un petit peu dans notre public cible. Tu sais, on en reçoit là, des courriels de gens là, qui nous disent « Hey, je suis vraiment... » C'est Simon-Olivier Lorange, notre collègue là, du balado, qui disait là, il a été plutôt positif après une défaite du Canadien la semaine dernière sur le processus. Puis il dit « Tu sais, j'en ai reçu là, du courriel là, de lecteurs qui sont des abonnés puis sont vraiment tannés là, de cette reconstruction-là. Fait que je pense que le public est divisé en deux un petit peu.
Vas-y Stéphane, excuse-moi. Vas-y.
Oui, mais on va le voir quand ça va se refléter sur la vente des billets. Tant que le monde y va, on va dire...
Il n'y a pas d'urgence, c'est ça l'affaire.
C'est pas la grosse pression du Canadien.
Il n'y a pas beaucoup de support.
C'est pas de la grosse pression que le Canadien a de dire, hey, l'année prochaine, il faut absolument faire les playoffs parce qu'on on vend moins de tickets. Mm-hmm. Ils n'ont pas cette pression-là.
Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ce luxe-là.
OK, mais attendez, là, les gars, je comprends votre point de vue. Encore là, c'est une conversation qu'on a complètement à l'extérieur de l'organisation. Sincèrement, là, si tu t'appelles Jeff Gorton, si tu t'appelles Kent Hughes, as-tu le goût de passer 6-7 ans dans le Moshmallow?
Non.
T'es là pour quoi? T'es là pour prouver.
Mais Martin,
laisse-moi terminer. Vas-y. T'es là pour prouver que qu'est-ce que t'amènes comme expertise dans la Ligue nationale de hockey, c'est que t'amènes un club qui gagne. Fait que donc, eux, là, ils sont pas là pour se tourner les pouces puis jouer aux fléchettes, là. Mm-hmm. Si c'est le cas, sacrez-moi ça dehors plus sacrant. Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que Jeff Gorton veut pas passer sa carrière au complet chez les Canadiens de Montréal. Il veut s'en aller ailleurs un moment donné dans un rôle qui est complètement différent.
Il y aurait une place à Columbus.
N'importe quoi, mais le gars est là pour prouver que ce qu'il a amené comme plan fonctionne. Fait que donc, on a beau dire que la clientèle est là, que tout le monde est un peu complaisant, mais si eux autres sont complaisants, ben qu'est-ce qu'ils font là? Mm. Ils sont venus pour ça.
Non, mais eux, ils vont...
T'attendras pas 8 ans de temps?
Ben eux, ils vont dire que ça fait juste 2 ans et demi qu'on est là.
Je m'emporte.
On a l'impression qu'ils sont là depuis très, très, très longtemps, mais ils sont là depuis 2 ans et demi.
Exactement.
C'est pour ça qu'il
n'y a pas panique encore. Fait qu'il y a encore peut-être un autre Mulligan l'année prochaine, de dire OK, on continue notre plan. Ouais,
mais tu vois, moi, l'année prochaine, ce que j'aimerais entendre, si j'étais un détenteur, particulièrement un détenteur d'abonnement, ce que j'aimerais entendre au tournoi de golf quand tout le monde revient au mois de septembre, j'aimerais entendre la direction qui dise OK, on vise les séries.
En bas de ça, l'autre fois, on veut
jouer des matchs significatifs en mars. Quoi? Il y a personne qui dit ça. Il y a personne nulle part qui a jamais dit ça.
Jeff Gorton l'a dit, c'est ça.
C'est la première personne de l'histoire de l'humanité.
Mais je pense pas que ça soit rendu au point.
Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça. Faut que tu arrives en septembre.
Je pense pas que ça soit rendu au point de se mettre cette pression-là de dire l'année prochaine, là, nous autres, on vise les playoffs. Je pense, j'ai le feeling qu'ils sont pas rendus là. Ils ne mettront pas cette pression-là. Ils sont peut-être proches de là à une autre année. Mais l'année prochaine, je suis pas sûr qu'ils vont se mettre cette pression-là. Parce qu'en ce moment, je pense pas qu'ils sentent le besoin de se mettre cette pression-là, de dire l'année prochaine, on vise les séries.
Alexandre. Je rappelle juste que l'année prochaine, le Canadien va avoir 4,3 millions de dollars en salaire dans d'autres équipes.
Ouais.
Fait que je pense pas que c'est l'année qu'ils vont viser les séries. Avec 4,3 millions, tu peux t'acheter un pas pire joueur autonome quand même qui vient renforcer ton club.
Non, mais ils veulent pas venir à Montréal, pareil. On les veut pas, les joueurs autonomes. Mais tu disais tantôt,
quand on accélère, ben, si t'accélères, à un moment donné, tu vas aller prendre des joueurs autonomes qui vont juste genre sur ton deuxième trio ou ta deuxième paire de défenseurs. Moi, je vois pas le Canadien faire ça.
Ah, en tout cas, moi, je vais juste vous résumer. Je pense que quand t'es un gars de hockey, puis je pense que ce sont des gars de hockey, Gorton qui est là, Kent Hughes, t'as proposé un plan, tu veux que ce plan-là marche.
Ouais.
Faut réaliser, vous avez raison. Ça fait pas tant longtemps. Quand t'es rendu à 2 ans et demi, c'est pas beaucoup. Mais je pense que la pression vient d'eux autres mêmes pour dire ça peut fonctionner.
Ben, moi je fais. Tu sais, le discours du Canadien, c'est qu'ils en sont à la deuxième année de leur reconstruction. Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est la troisième. Quand tu termines dernier de la Ligue nationale puis que tu échanges 4 titulaires à la date limite des échanges. Pour moi, ça fait partie d'une reconstruction l'année que tu le fais. Mais eux, leur discours, c'est notre deuxième année, cette année de reconstruction. Puis on parle toujours de plan quinquennal Montréal. Eux, ils n'ont pas dit que c'est un plan quinquennal, mais on peut deviner que, étant donné qu'on a toujours travaillé avec des plans quinquennal Montréal, il leur resterait probablement 3 saisons pour bâtir un club qui peut vraiment compétitionner pour les... En fait, Kent Hughes a parlé d'un club top 10 de la Ligue. Là. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que leur horizon, c'est 3 ans pour être dans le top 10 de la Ligue. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je le sais pas.
Martin Saint-Louis a dit aujourd'hui en point de presse, parce qu'on posait la question, comment se fait-il que vous êtes capable de compétitionner comme des formations comme les Leafs de Toronto, qui sont dans le top 10 de la Ligue nationale? Il dit, cette année, on est beaucoup plus proche d'eux autres qu'on l'était l'an passé. Fait que donc, s'approcher, ça veut dire amélioration, selon eux. Là. Eux, ils voient de l'amélioration.
OK, Jérémy, ils ont jamais enfilé de toute la saison 3 victoires de suite. T'sais, quand on parle d'un problème de constance,
ça nous ramène sur la terre.
La dernière fois que c'est arrivé, ça fait une année civile.
Mais il ne parle pas de résultats, il parle de... de processus.
Ouais, c'est que, c'est qu'éventuellement, je sais pas, moi, j'étais le gars qui signe les chèques en haut complètement, là. Éventuellement, je pense que j'ai le goût de voir des résultats. C'est bien beau dire, on avance, on est proche, on est capable de compétitionner, mais à un moment donné, on est encore 26e au classement général, là.
T'es
28 l'année passée.
Quand même.
D'accord.
Quelle amélioration.
C'est une progression.
Oui, c'est ça,
Hey, non, Stéphane, c'est le processus. C'est ça qui passe.
Mais là, si tu montes de deux échelons par année,
c'est long,
arriver à un, ça va prendre un petit bout.
Ça va prendre du temps.
OK. 14 ans.
On va s'arrêter là-dessus pour retour. On va se parler du mentor de Martin Saint-Louis qui a pété les plombs dans un match en fin de semaine, John Tortorella. Suspendu 2 matchs, 50 000 $ d'amende. Je vais avoir votre réaction là-dessus. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 44 avec Alexandre Pratt, Richard Labbé et Stéphane White. Les gars, permettez-moi de commencer avec Stéphane. John Tortorella, dans un match ce week-end, c'était contre qui? Mon Dieu, j'ai oublié contre qui.
Tampa
Bay, voilà. Donc, après 9 minutes, il restait 9 minutes quelques en première période, c'est déjà 4-0 pour Tampa Bay. Et là, Tortorella est dans tous ses états, change son gardien de but et en même temps, en guirlande les officiels, ce qu'il a fait depuis le début du match, j'en suis convaincu. Et là, l'officiel le chasse de la rencontre et Tortorella dit non, moi, je bouge pas d'ici. Moi, je pense, puis je sais pas ce que t'en penses, Steph, j'ai l'impression qu'il voulait gagner du temps un peu pour que son gardien de but puisse se réchauffer comme il faut. Continue, blablabla, finalement, on sort. Il est suspendu 2 matchs, 50 000 $ d'amende. Les Flyers disent, hey, on l'endosse complètement ce qu'il a fait. Ouais. On va payer son amende. Comment tu vois la situation, Stéphane?
Ben, c'est du grand tort. Et puis, c'était deux gros égos, hein. Wes McCauley puis Tortorella, là. Tu sais, c'est deux gros égos. Et puis, il y a sûrement un historique entre ces deux-là, il n'y a aucun doute. Mais, Tort a voulu peut-être allumer son équipe, ou essayer de quoi. Probablement qu'il ne pensait pas que ça coûterait 2 matchs. 50 000, je pense qu'il va bien vivre avec ça. Puis, surtout que le président dit, on va le payer, il n'y a pas de trouble. Ouais.
C'est pas lui qui va le payer.
Ouais, c'est pas lui qui va le payer, on l'endosse, il va à guerre pour notre équipe,
il a notre
back, c'est ça. Et puis, c'est du grand Torch qui revient, qui est à Tampa Bay, puis c'était drôle de voir ses anciens joueurs qui avaient gagné la Coupe Stanley avec lui à Tampa Bay, qui était justement une fête pour souligner cet anniversaire-là de la Coupe Stanley, puis on voyait Dave Andrechuk, tu sais, dans la loge, que les gars riaient tout, on va dire, enfin, ça c'est Torch. Mais écoute, 2 matchs de suspension, j'ai été surpris. C'est quand même beaucoup pour un gars qui se fait mettre dehors. Et puis, non, le fait qu'il voulait pas quitter le banc, c'est du grand Torch.
Il a humilié l'image de la Ligue, c'est ça qu'on suspend.
Ouais, exactement.
J'aimerais ça qu'on soit, je trouve ça sévère en passant en 2 matchs pour ça.
J'ai vu des doubles échecs en plein visage de monde qui était
ça. Exactement. C'est en plein ça que j'allais dire.
Que c'est Torch, parce que c'est Torch.
Mais j'aimerais qu'on soit aussi sévère quand c'est le temps de faire des suspensions pour des gars qui mettent des bâtons dans la face d'un adversaire. J'aimerais ça qu'on soit aussi sévère que ça. Ouais. Là, c'est un crime sans victime, comme on dit en anglais. Il a fait mal paraître la Ligue, alors c'est pour ça qu'on lui donne ça. Mais je trouve ça très sévère. Et mémo à George Parrish, là. Ben, tu peux être aussi sévère que ça, prochaine fois.
Avec les joueurs d'hockey.
Ouais, s'il te plaît.
Genre, mettons, ceux qui se lâchent là, des petits coups de bâton, c'est poignets des bons joueurs. Genre,
ben, exactement. Sur Bédard, là, exactement.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
Mais sous moi, cette année, c'est quoi? C'est le deuxième, le troisième coach qui est expulsé d'un match? Il y en a plus cette année.
T'as eu Keefe, c'est une couple de semaines.
Ouais.
Et Patrick Roy même pas été expulsé encore.
Encore, bravo à lui.
Incroyable. Ouais,
c'est parce qu'il se fait passer longtemps.
Ça va venir éventuellement.
Mais parlons de Patrick Roy. Honnêtement, 6 victoires de suite. Les Islanders qui devancent présentement les Red Wings de Détroit comme dernière équipe ayant accès aux séries de fin de saison comme 4e as. Sincèrement, c'est parti. On se disait, il va-t-il être capable? Si le vent tourne du côté des Islanders, Alexandre?
Ben, c'est un bon coup de défibrillateur hein, pour tous ces détracteurs qui disaient, ouais, check ça, toi, le gars de junior qui s'en vient. Puis en plus, ça a été difficile au début, mais on l'avait dit ici. Si vous nous aviez écouté, le calendrier des Islanders était archi compliqué au début. Ils ont eu genre, je pense, c'est les Panthers, les Stars au début, les Golden Knights, c'est vraiment compliqué. Mais il a replacé ça. Il est en train de mettre son empreinte sur cette équipe-là. Il est en train de faire adhérer les joueurs à son projet. Et parti comme cela, je pense qu'ils vont participer aussi.
OK, mais ça me permet juste de ramener les Flyers là-dedans parce qu'on parlait de John Tortorella. Ouais. Est-ce qu'ils vont tenir le coup, selon toi, Stéphane? Est-ce qu'ils vont se maintenir?
Ça va être difficile parce que surtout qu'à la période de vendredi passé, ils n'ont pas... ils ont rien fait. Au contraire, même, ils ont perdu Sean Walker, le défenseur. Donc, ils sont pas meilleurs que vendredi. Tu vas me dire que New York Islanders, tout, ils ont rien fait. Mais New York Islanders vont très, très, très bien. Moi, écoute, ça va être dur pour Détroit et les Flyers de finir devant les Islanders pour une et unique raison. C'est les Islanders ont Sorokin. Et puis les autres, là... Philadelphie, là, Samuel Larson, oui, une bonne saison, mais dernièrement, c'est plus difficile. Même chose à Détroit, je crois pas aux trois gardiens de but qui sont là, Reimer, Rousseau ou Alex Lyon. Donc,
un autre ménage à trois.
Ça marche pas, un ménage à trois, on le sait.
Ça marche pas. Mais écoute, non, Patrick, il est en train de virer ça de bord. Ils ont le vent des voiles, ils ont le rip. Et puis, ça va être toute une fin de saison. Donc, ça va être difficile pour les Flyers et Détroit de devancer les Islanders.
Parenthèse, Jérémy, un ménage à trois a déjà marché en 86, l'année de la Coupe cette année. D'ailleurs, il y a eu un excellent
livre. Là-dessus. Comment ça s'appelle déjà le livre?
L'équipe qui ne devait pas gagner.
Je
le recommande chaudement.
Washington, croyez-vous une poussée? Pensez-vous que c'est possible? Non. Oublie ça, non, Washington? Non, OK,
J'en poserai plus. Mais
que...
bon,
ils ont échangé Manta, c'est correct, mais c'est un bon joueur cette année, Manta, quand
même. Vas-y, Steph. C'est la seule équipe qui ont 62 matchs, donc un match en main sur les Islanders, deux sur Détroit, c'est pas le 3 sur les Flyers, donc...
Attends une minute,
ça va être difficile.
Ça me surprendrait.
OK, avant qu'on se parle de Gary Bettman, juste un petit point. OK, dans le match entre le Wild du Minnesota et les Prédateurs de Nashville, je sais pas si vous avez vu, on est en prolongation et on décide de retirer Marc-André Fleury. Ben vous avez bien compris, là, en prolongation, on retire le gardien de but.
J'étais pas au courant de ça, d'ailleurs, moi.
Pardon?
Le règlement, j'étais pas au courant de ça.
Non. OK, pendant le jeu, on retire le gardien de but et on amène 4 attaquants et on marque le Wild qui sauve avec la victoire face aux Prédateurs de Nashville. Écoute, comment vous avez trouvé ça? Moi, je trouve ça... j'ai l'impression...
Au-dessus. Il faut expliquer peut-être le règlement que... Vas-y. En fait, c'est que si tu te fais marquer quand t'as pas de gardien, tu perds ton point. Donc, t'as 0 point.
Fait que tu prends une méchante chance, là.
Oui, tout à fait.
Tu perds le point bonus.
Qui est tout double. C'est ça. C'est qui est tout double, sauf que le Wild, où il est dans le classement général, en fait, il n'y a pas de course aux séries dans l'Ouest, là. Les plus proches, c'est eux autres, puis sont genre à 7 ou 8 points en arrière des autres. Puis, tu sais, celui qui doit rattraper, ce sont les Prédateurs contre qui ils jouaient. Fait que eux, là, t'es rendu là. Et que sérieux. Pour moi, là, c'est comme enlever ton gardien, tu sais, à la fin d'un match, tu perds 3-1, ou tu sais, à la fin d'un match, bah, que tu l'enlèves ou que tu le laisses, c'est pas la même affaire, tu sais. Allez, on y va pour le Vatu. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait, mais version prolongation. C'était super excitant, honnêtement. Puis ça s'est résolu très, très vite. Le Wild a marqué quasiment aussitôt. Mais pourquoi pas? Je veux dire, tu joues à un moment donné les probabilités mathématiques. L'équipe qu'il faut que tu rattrapes est en face de toi. Puis là, tu as vraiment une occasion. Tu sais, il faut que tu ailles le chercher, ce point-là. Puis si tu penses que tu as des meilleures chances en y allant à 4 contre 3... Quand fusillade, go on.
C'est John Hines qui est là, hein, avec les Prédateurs, pas les Prédateurs, mais avec le Wild du Minnesota. Ouais. Après, il a dit, tu sais, on veut montrer qu'on est extrêmement agressif. Je regardais la réaction des gars sur le banc.
Ben oui, ouais, t'es content.
Il y a quelque chose, ils sont en train de partir un petit quelque chose de spécial.
Ça peut te relancer. Ça peut être un bon coup de défibrillateur.
Stéphane, t'en penses quoi?
Moi, j'ai adoré ça. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Écoute, c'est un point, comme qu'il disait, John Hines, c'est pas assez. Ça nous en prend deux, puis à la plupart des matchs, j'ai adoré ça. Je me souvenais de ce règlement-là, quand on a instauré la fameuse période de prolongation à 3 contre 3, je me souvenais du règlement. Donc, j'ai adoré ça, puis ça, c'est un bon signe que tu envoies à tes joueurs, puis à tout le monde, des gars, les boys, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis on n'abandonne pas. Puis chapeau.
OK, les gars, on va terminer avec Gary Bettman qui, dans un point de presse, c'était un match des Ducks d'Anaheim, je pense. Dans un point de presse, on le questionnait sur le fait que la NBA a décidé, du moins planifie... Planifie le potentiel ajout, la potentielle probabilité. Il n'y a pas de mots avec plus de points d'interrogation que je peux dire. Mais on regarde si c'est possible d'ajouter des équipes qui vont entrer en série de fin de saison du côté de la NBA. Fait que donc, il y a un journaliste qui a demandé ça à Gary Bettman. Et Gary Bettman, convaincu, là, et dur comme fer. Non. Nous autres, ce qu'on a, c'est parfait, c'est excitant, ça rentre comme ça, ça va super bien, même si on augmente avec plus de formation, ça reste comme ça. Je veux avoir votre point de vue, est-ce que la Ligue nationale devrait avoir une petite ouverture d'esprit et penser à ajouter des formations lors des séries de fin de saison? Richard, je commence avec toi.
Ce qui est le fun, c'est que dans le bon vieux temps, quand j'étais tout petit, c'était une ligue à 21 clubs et il y avait 16 clubs qui rentraient en série. Maintenant, on a 32 clubs et on a exactement le même nombre de clubs qui rentrent en série. Il y a un petit problème avec ça, à mon avis. Je pense qu'on aurait dû déjà augmenter le nombre de clubs. La NFL l'a fait. Ça fonctionne très bien. Ça ajoute un petit peu au calendrier, à l'importance du calendrier, parce que soudainement, tu as des places qui sont disponibles. Moi, je pense qu'on pourrait facilement rajouter 4 clubs qui rentrent. Et je pense pas que ça nuirait au spectacle. Je pense que ça aiderait au phénomène, ce qu'on appelle en anglais le tanking. Parce que là, commence à avoir pas mal de plus en plus de clubs là, qui disent au mois de novembre, finalement, mathématiquement, on n'est plus dedans. Fait qu'on va commencer peut-être à liquider quelques joueurs. C'est pas bon pour les partisans, c'est pas bon pour le spectacle. Je pense qu'on doit absolument revoir ce paysage-là. Parce que présentement, 16 sur 32, là, c'est quoi, le baseball majeur qui est aussi pire que ça, là, dans son nombre de clubs?
Même
qui
le baseball majeur a amené
un suicide. Ça n'arrête pas d'augmenter au baseball.
C'est ça. Mais avec raison, parce que c'est ça que les gens veulent voir ça. Honnêtement, moi, j'ai pas détesté.
La formule COVID, il y a eu.
C'est ça que j'allais dire. T'sais, on est rentré, c'est quoi, c'était 28?
24 clubs.
24. Ouais. Honnêtement, c'est quoi le problème avec 24?
C'est un 2-2-3, c'était palpitant.
Exactement.
Il y avait quelque chose de le fun là-dedans, Alexandre?
Moi, je suis 200 000% en faveur d'augmenter le nombre d'équipes en série. En fait, il y a juste de la logique là-dedans. Tu augmentes l'intérêt, je veux dire, pour le hockey, dans les semaines qui comptent le plus, dans plus de marchés. C'est juste un no-brainer pour moi. Je veux dire, dans ta semaine où ça compte le plus, le premier tour des séries, là, je veux dire, qui est quand même le tour où c'est le plus excitant puis il y a le plus de marchés ouverts, ben, si c'est pour en avoir 4 de plus, moi, j'irais à 20 là, plutôt qu'à 24. Mais tu sais, à 20 avec comme des équipes qui ont des bails au premier tour et tout, ben, je suis tout à fait en faveur. L'autre chose, c'est qu'on regarde cette année puis il y a 17 clubs présentement qui sont encore dans la course. Mettons, je vais mettre 18 avec Washington, même si je crois pas, là. Pour 16 postes.
C'est la moitié.
Okay, je veux dire, ça veut dire qu'il y a 14 clubs présentement qui jouent dans le bar jusqu'à la fin de l'année. Il reste 6 semaines. C'est plate. Honnêtement, c'est le mois de mars le plus plate que j'ai vu dans la Ligue nationale. Alors que si tu augmentes à 20 ou à 24, là, tu as bien plus d'équipes impliquées. Tu as plus d'équipes qui se battent pour la première place qui offrirait un bail pour le premier tour. Il y a juste des points positifs. Puis le baseball, tu l'as dit, le fait. Pour moi, c'est la plus belle révolution qu'il y a eu au baseball parce qu'avant ça, il y avait une équipe par division. Puis souvenez-vous que les Expos ont souvent terminé deuxième ou troisième. Puis que là, t'arrivais comme, OK, t'arrives le 1er septembre. Puis là, les 30 derniers matchs de l'année comptent plus, c'était plate. Là.
Ouais.
Tu sais, ça aurait été le fun de vivre ça dans le temps avec les Expos.
Ce qui fait donc, le sujet de la NFL, d'ailleurs, exact. C'est que chaque fin de semaine, compte, jusqu'à la dernière, compte parce exact. Que, d'autant plus qu'on a rajouté des équipes, ça rend le produit très, très excitant. Ouais. Et Alexandre a 100% raison.
Ouais, non, il faut.
Tu sais, honnêtement, moi, je suis là, chaque soir sur la galerie de presse. Là, là, ce matin, à Brossard, on se parlait de nous autres. Là, on disait, oh boy, OK, il en reste 18 pour de vrai. Là. ça va être long, là, parce que là, la date limite des échanges est passée. Le suspense, on va essayer d'en trouver.
Allez-vous commencer à planifier vos vacances avec les joueurs? Ouais, pour une tocada. Stéphane, pourquoi?
On n'a pas de même budget.
Pourquoi Bettman est aussi têtu que ça et ne veut pas augmenter le nombre d'équipes qui rentrent en série?
Je suis surpris de ça, surtout que c'est un... C'est des revenus de plus.
Ah oui.
Et puis,
c'est vrai que c'est étonnant, ça fait pas de sens.
C'est des revenus de plus pour tout le monde. Je suis surpris de ça. Sauf qu'on est quand même la deuxième ligue avec la NBA, c'est nous qui a le plus de clubs dans les séries. T'as, la NFL, donc quand même juste 14 clubs dans les séries. Et le baseball majeur, à peine une dizaine. Donc, on est quand même, parce qu'on vend beaucoup la NFL, pis ça, mais ils ont moins de clubs que nous autres dans les séries. Et puis, mais il reste que, moi aussi, je suis d'accord. Mais il faut que ça reste une affaire, par exemple. Une affaire, il faut que ça reste difficile de faire les playoffs. Il faut que ça reste un objectif où ce que tu veux pas encourager un club qui joue moins bien, qui fait les playoffs. Et puis, moi, j'ai tout le temps trouvé ça excitant, essayer de faire les séries à 16 clubs. C'est comme, on a besoin d'avoir toute une saison. Et puis, donc, sur ce côté-là, j'aime ça. Mais j'aurais pas de trouble aussi à monter à 20, surtout à cause du fait qu'on est rendu à 32 clubs. Et je me souviens, comme Richard, à l'époque de 21 clubs, où c'était quand même 16 clubs. Puis là-dedans, mais par exemple, dans ce temps-là, dans 16 clubs, t'avais des mauvaises équipes, des très mauvaises équipes
dans
les séries.
Mais t'avais un premier tour facile quand le Canadien pognait Buffalo. Facile!
Oh, mais attends, ce que tu n'as plus maintenant, que moi j'adorais.
La division Adams,
non, l'équipe Cendrillon, ça existe plus. T'as plus ça.
Il y a eu quand même les Kings.
On a eu les Kings, on a eu les Blues il y a quelques années.
Mais tu sais, l'équipe, Stéphane, tu te souviens certainement des North Stars de 91 qui rentrent avec, je pense, ils jouent même pas pour 500, rentrent le dernier week-end.
Les Panthers, c'est vraiment
dans la finale.
Panthers,
c'est des équipes qui jouent pour pas mal plus que 500.
Mais quand tu fais une série, ça devrait être parce que tu as une bonne équipe. Faire des séries quand tu as une mauvaise équipe, je trouve que c'est pas. J'aime pas ça. Mais il y a sûrement moyen d'avoir 20 bonnes équipes dans la Ligue sur 32.
Je voulais juste amener comme point, j'ai l'impression aussi qu'il y a une question de convention collective. T'sais, si tu veux pas ouvrir la convention collective pour demander à l'association des joueurs, parce que si tu arrives, ça se peut qu'eux autres aient des demandes, peut-être qu'on attendra la fin de la convention collective, puis à partir de là, on va
enlève peut-être... deux matchs à la saison régulière.
Et t'enlèves pas des fini, matchs aux propriétaires, ils vont pas être contents. Ils vont
c'est
pas
ça.
Être,
non,
ça, c'est toujours compliqué. Ce
c'est de la négociation. Bon, ce fut un plaisir encore une fois. Merci beaucoup, Alexandre Pratt.
Plaisir, Monsieur Rainville.
Mais, Monsieur Labbé, il va vous appeler, moi, monsieur.
Ah!
Monsieur Labbé!
C'est un plaisir.
Salut, Richard. Merci Jérémy. Beaucoup. Merci. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Stéphane.
Merci, les gars. Bonne semaine.
Voilà, c'était le balado Sortie de zone. Nous, on se reparle vendredi, le 15 mars.